Qu'est-ce qui vous a poussé à venir ce matin? Pourquoi est-ce que vous êtes venu ce matin? Est-ce que c'est l'habitude? Voilà, c'est dimanche, le dimanche, on va à l'église. Est-ce que c'est l'obligation? Vous aviez après tout pris la responsabilité de la sono, de venir chanter, de vous occuper des enfants, de vous occuper du beamer, de la Sainte Cène, du café à la fin du culte. Et peut-être que j'oublie encore quelque chose. Enfin bref, il y a tout plein de choses à faire le dimanche matin. Et vous étiez engagé, donc vous étiez obligé de venir. Ou bien est-ce que c'est parce que Dieu est votre boss? En général, quand notre boss, il nous convoque à une réunion, ben, on y va. Est-ce que c'est pour être un bon chrétien? Pour voir vos amis? Pour accumuler suffisamment de bons points pour être sauvé? Et je vous pose cette question, c'est assez facile, vous êtes assis devant moi pour un culte. Mais on pourrait se poser la question dans pas mal de domaines de nos vies, pour tout ce que nous faisons pour Dieu. Par exemple, prier le matin en se réveillant, lire notre Bible, participer à un groupe de maison, faire les nettoyages à l'église, parler de Christ autour de nous, se conduire en bon père de famille, être patient, aider son prochain. Qu'est-ce qui nous pousse à servir Dieu? Et normalement, dans le plus parfait des mondes, si tout allait bien, on devrait tous avoir à peu près la même réponse. C'est que nous avons de la joie à servir Dieu. C'est que nous avons du plaisir à le faire. C'est réjouissant. Et récemment, j'ai été interpellé sur ce sujet-là, sur ma manière de servir Dieu, par une prédication de John Piper. Puis après, j'ai continué sur le sujet en commençant un livre de Jonathan Edwards, Religious Affections. Voilà, il y a quelques choses qui m'ont inspiré et qui se retrouvent dans cette prédication. Souvent, en fait, quand je prépare des prédications, je m'inspire d'autres chrétiens et souvent, j'oublie de vous le dire. Alors voilà, ce matin, je vous le dis. Et je me suis posé cette question. Pourquoi la joie n'est pas plus présente dans mon quotidien? Imaginez un jeune homme, Gérard, et son ami, son excellent ami, appelons-le Albert. Et puis Gérard arrive vers son ami, et puis Albert dit: Oh, mais tu as l'air triste. Qu'est-ce qui se passe? Puis Gérard qui répond: Oh, je suis amoureux. Puis Albert qui dit: Ah oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, c'est Gertrude, c'est ça, hein, ça fait longtemps que tu es amoureux d'elle. Puis il fait: Oui, c'est effectivement, c'est elle. Puis alors, elle n'est pas amoureuse de toi? Si, elle est amoureuse de moi. Sniff. Mais vous êtes disputé alors? Non, pas du tout, tout va bien. Mais alors, pourquoi t'es triste? Ben, je suis amoureux. Ce serait terrible comme situation. C'est absurde comme scène. Vous trouvez pas? Il est amoureux et il est tout triste. Quand on est amoureux, on est dans la joie, on est content. Je sais pas, quand vous avez vos amis qui sont amoureux, qui sont revenus parce qu'ils ont trouvé l'amour de leur vie, bah, ça se voit, ils rayonnent, ils sont contents. Et la joie est quelque chose d'absolument essentiel dans notre vie. Et il y a plusieurs textes bibliques qui en parlent. Il y en a de nombreux. Psaume 4, verset 7, Tu as mis de la joie dans mon cœur plus qu'au temps où leur froment et leur moût ont été abondants. Réjouissez-vous en l'Éternel et égayez-vous juste et jetez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Psaume 32, verset 11. Ésaïe 65, 18. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Philippiens 3, verset 1. Au reste, frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Au chapitre 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je vous le répète. Réjouissez-vous. 1 Thessaloniciens 5, verset 16, Réjouissez-vous toujours. Qu'est-ce qui nous empêche de nous réjouir? Et je pense qu'une des choses qui peuvent nous empêcher de nous réjouir, c'est les difficultés. Parce qu'on a envie d'être dans la joie et on a l'impression de se prendre un mur. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais juste dire qu'il y a certaines situations dans la vie qui sont extrêmement douloureuses, extrêmement difficiles, et dont je ne vais pas parler ce matin. Puis c'est clair qu'il y a des moments, des fois, des situations où on est triste, et puis on est triste, puis j'ai envie de dire c'est normal. On ne va pas reprocher à Job d'avoir pleuré. Mais dans la suite de la prédication, je ne vais pas parler de ces situations extrêmes. Et je propose qu'on s'attarde sur le début de l'épître de Pierre. Alors j'ai pris une traduction, la traduction Parole de vie. En général, j'aime bien la traduction Second. Mais parce qu'ils ont été quand même... Ils ont pensé un peu plus à leur lecteur que Second. En grec, les 6 versets font une phrase, voire les 12 versets font une phrase. Second a été gentil, il a mis un point au milieu. Mais là, il y en a un peu plus, c'est plus compréhensible. Chantons la louange de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande bonté, il nous a fait naître une deuxième fois en relevant Jésus-Christ de la mort. Nous avons ainsi une espérance qui fait vivre. Et nous pouvons attendre avec joie les biens que Dieu garde pour nous. Il les garde pour vous dans les cieux, là où ils ne peuvent s'abîmer, ni être salis, ni disparaître. Et vous-même, si vous croyez, le Dieu puissant vous garde pour vous sauver. Ce salut, on le connaîtra à la fin des temps. C'est pourquoi vous êtes remplis de joie. Même si toutes sortes de difficultés doivent vous rendre tristes pendant un peu de temps. Ces difficultés servent à montrer la qualité de votre foi. L'or peut s'abîmer. Pourtant, on le met dans le feu pour voir s'il est pur. C'est pareil pour votre foi. Elle est plus précieuse que l'or. Mais elle aussi est mise à l'épreuve. Alors quand Jésus-Christ paraîtra, vous recevrez honneur, louange, et gloire à cause de la qualité de votre foi. Jésus, vous ne l'avez pas vu, et pourtant vous l'aimez. Vous ne le voyez pas maintenant, et pourtant vous croyez en lui. C'est pourquoi vous êtes remplis d'une très grande joie, une joie si grande qu'on ne peut même pas en parler. Cette joie, vous l'avez parce que vous êtes sauvés. Voilà la récompense que vous gagnez en croyant en Jésus. Les prophètes ont fait beaucoup de recherches au sujet de ce salut. Par avance, ils ont parlé du don que vous alliez recevoir. L'Esprit du Christ était en eux, et ils ont annoncé par avance les souffrances que le Christ allait supporter et la gloire qui allait suivre. Les prophètes ont cherché à comprendre à quel moment et de quelle façon ces choses allaient arriver. Voici ce que Dieu leur a appris. Le message qu'il donnait n'était pas pour eux, mais pour vous. Maintenant, ceux qui annoncent la bonne nouvelle vous ont communiqué ce message avec la puissance de l'Esprit-Saint envoyé du ciel. Et ce message, les anges eux-mêmes désirent beaucoup le connaître. Qui d'entre vous traverse une épreuve dans sa vie de foi? Qu'est-ce qui rencontre des difficultés dans sa vie de foi? Je sais qu'il y a beaucoup de gens parmi nous qui sont frappés par la maladie. Et la maladie, des fois, c'est une épreuve d'être atteint dans notre santé. Et on se dit, mais pourquoi moi? Pourquoi Dieu ne me guérit pas? D'autres sont fatigués de leur situation professionnelle. D'autres de leur couple, de leurs enfants, de leurs parents, de leur célibat, de leurs études. Mais un point commun à toutes ces épreuves, c'est que ça peut atteindre tout le monde. Chrétien, non chrétien, on est à peu près tous sujets, une fois ou l'autre, à ce genre de difficultés. Et l'épître de Pierre est adressée à des chrétiens qui probablement sont persécutés pour leur foi. Ce n'est pas juste un hasard. On peut pas juste, dans leurs circonstances, ils ne peuvent pas juste dire, mais pourquoi Dieu permet-il cela? Est-ce que... Voilà, mais là, c'est parce qu'ils sont chrétiens qu'ils subissent des difficultés. Ils se sont engagés pour Dieu et ils se font persécuter. Et qu'est-ce que leur dit Paul? Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Nous avons ainsi une espérance qui fait vivre et nous pouvons attendre avec joie les biens que Dieu garde pour nous. Il les garde pour vous dans les cieux, là où ils ne peuvent s'abîmer, ni être salis, ni disparaître. Toi qui es dans l'épreuve, l'espérance que Dieu te donne fait ta joie. Plonge tes regards dans le salut qui t'est offert. Observe les mystères qui sont révélés sur la croix. Tu as un héritage qui t'attend, qui est absolument incroyable, que rien ne pourra venir corrompre, détruire, on ne pourra jamais le voler. Imagine que tu es le fils d'un richissime milliardaire. Alors, ton père, il est tellement riche qu'il peut s'acheter tout ce qu'il veut. Il veut un hôtel pour passer ses vacances. Il l'achète. Il veut arrêter de travailler. Il arrête. Il veut une nouvelle maison. Il l'achète. Et ben, tu es content parce que c'est ton père et tu sais qu'un jour, toute sa richesse va te revenir par héritage. Pas de chance, pas de chance. Crash boursier, il perd la moitié de sa fortune. Ensuite, l'État remarque qu'il a un peu magouillé pour ne pas payer trop d'impôts, il reçoit quelques milliards d'amendes. Puis ensuite, il a 2-3 gestionnaires déloyaux. Bref, tout ce qui fait qu'en 3 mois, il est ruiné, il n'a plus rien, il est sur la paille. Et toi, bah, tu n'as plus d'héritage, pas de chance. Ça arrivait au mauvais moment, ça arrivait trop tôt. Tu n'as pas pu bénéficier de la richesse de ton père. Vous dites, ça n'arrive pas quand on a une telle fortune, c'est pas possible. Lisez les journaux. Hein, des hommes richissimes, du jour au lendemain, plus rien. Et là, l'héritage que Dieu veut nous donner, c'est pas le même. On ne va pas le perdre. Il n'y a personne qui va pouvoir dire à Dieu, écoute, tu as fraudé avec les impôts, il faut payer une amende maintenant. Non, l'héritage que Dieu nous réserve est précieux et il ne peut pas se perdre. Et je crois que si des épreuves t'atteignent dans ta foi, c'est encourageant. C'est encourageant parce que Dieu s'est dit que tu étais suffisamment grand, suffisamment mature pour que ta foi soit éprouvée. Vous savez, quand on engage un apprenti dans une entreprise, bon, au début, il va commencer à balayer l'atelier. Ensuite, on va lui montrer comment faire, je sais pas, 2-3 branchements électriques, tout simple. Donc, on va voir qu'il a un peu compris certaines choses. Il va dire, OK, maintenant, tu peux aller dans telle situation, régler le problème. Puis, il pourrait se dire, ah, c'était beaucoup plus facile de balayer l'atelier. Mais non, c'est encourageant, il est en train d'apprendre. Et il va se retrouver dans une épreuve, mais auparavant, Dieu l'a préparé pour qu'il puisse aller au-delà de cette épreuve. Et Dieu mentionne 3 bénéfices de ces épreuves. Premièrement, les épreuves révèlent l'authenticité de notre foi. Deuxièmement, les épreuves mettent en valeur la vérité. Et troisièmement, elles purifient notre foi. Les difficultés montrent si on a vraiment la foi. Vous savez, quand tout va bien, c'est assez facile de dire « je suis chrétien, je suis croyant, je crois en Jésus-Christ ». Mais quand il y a les difficultés qui sont là, quand il y a des choses qui ne jouent pas comme on l'avait compris, comme on l'aurait voulu, on a l'impression que les choses ne sont pas à notre avantage, ben c'est là que on peut voir si notre foi, elle est vraiment sincère. Et je vous pose une question, qu'allez-vous faire lorsque la persécution va arriver? La vraie persécution, comme on ne la connaît pas actuellement en Suisse. Je ne parle pas de la maladie, d'une catastrophe financière, de la perte d'un proche. Mais lorsqu'on viendra sonner à votre porte, puis qu'on dira « Vous êtes chrétien ? Alors suivez-moi, vous allez aller en prison. » Lorsque votre boss, en apprenant que vous êtes chrétien, vous convoquera dans son bureau et dira « Vous êtes viré. » Lorsque votre fiancé vous quittera parce que c'est trop difficile de vivre avec un chrétien. Alors bien sûr, je ne pense pas que ça arrivera comme ça. Je ne pense pas que dans les quelques prochaines décennies, simplement parce qu'on est chrétien, on va être persécuté, on va dire « parce que tu es chrétien ». Ce sera un peu plus subtil. « Ah, tu enseignes à tes enfants que Dieu a créé la terre. » Ça, ça ne va pas. Tu appelles un homme monsieur et une femme madame. Ça ne va pas. Tu conçois le mariage seulement entre un homme et une femme. Ouh là là. Tu dis que le seul moyen d'être sauvé, c'est par Jésus-Christ. Non, non, non. Tu oses parler de ta foi dans l'espace public. Tu finances un missionnaire. Et ça, c'est des choses qui vont probablement arriver d'ici une année, 2 ans, 10 ans, 20 ans. Mais en tout cas, on peut voir que c'est à notre porte. Regardez ce qui se passe dans nos pays voisins. En France, par exemple, c'est pas loin. Et quand ces épreuves vont arriver, ben, l'authenticité de notre foi sera révélée. Est-ce qu'on va persévérer dans le salut qui nous est promis en Jésus-Christ? Il y a quelques années, je discutais avec une responsable d'une église qui est subventionnée par l'État. Puis c'est une église qui n'est pas très dynamique. Et puis il y avait la question, est-ce qu'ils vont continuer à recevoir de l'argent de l'État ou pas? Et cette personne me disait, mais d'une certaine manière, moi j'espère que l'État va nous couper les vivres. Parce que quand l'État arrêtera de donner de l'argent, ben, ceux qui vont rester, ceux qui vont s'investir, ceux qui vont s'impliquer, ce sera ceux qui croient vraiment en Dieu. C'est ceux qui savent pourquoi ils sont là, pourquoi ça vaut la peine de vivre l'Église. Et la persécution, c'est la persécution, la difficulté, l'épreuve, c'est un petit peu comme quand l'apprenti il arrive à la fin de sa formation puis il doit passer un examen. Et le but de l'examen, c'est normalement, quand tout se passe bien, hein, je sais que ce n'est pas toujours le cas, mais ce serait de dire, mais waouh, tu as bien travaillé, maintenant on veut sanctionner ton travail par un diplôme. On veut montrer à tous que tu as bien réussi. Et je crois qu'avec Jésus, ce n'est pas un examen dans le sens où on doit produire du résultat, mais la difficulté, c'est un examen dans lequel il veut nous dire, mais est-ce que dans la difficulté, tu vas continuer à me regarder, moi, Jésus-Christ? Est-ce que dans la difficulté, nous allons continuer à regarder Jésus-Christ? Notre foi est authentifiée par l'épreuve. Réjouissons-nous quand l'épreuve arrive. Ben, ça veut dire que Dieu considère que notre foi est suffisamment solide, suffisamment ferme pour faire face à cette épreuve. Réjouissons-nous, car nous faisons partie de sa famille. Et l'héritage qu'on va recevoir, ben, on ne va pas le perdre. Ces difficultés servent à montrer la qualité de votre foi. L'or peut s'abîmer, pourtant on le met dans le feu pour voir s'il est pur. Voilà, je suis un peu trop loin dans mon slide. C'est pareil pour votre foi, elle est plus précieuse que l'or. Votre foi est plus précieuse que l'or. Et l'épreuve va aussi servir à montrer la qualité, la valeur de votre foi. Ce n'est pas que la foi en tant que telle soit précieuse. Vous savez, des fois, on rencontre des gens qui disent « Ah, mais c'est génial d'avoir la foi. » Puis ils ne pensent pas du tout à Jésus-Christ ou à un Dieu ou à n'importe quoi, mais juste la foi, comme si une confiance, simplement la confiance en tant que telle, permettait d'avancer dans la vie. Non, non. Là, il est bien question de la foi en Jésus-Christ. C'est l'objet de notre foi, c'est Jésus-Christ qui donne toute la qualité à notre foi. Et quand on traverse des difficultés, on peut voir à quel point la foi a de la valeur. Savez-vous combien coûte une Ferrari neuve? Allez, essayez. 300 000? Ouais, certaines coûtent 300 000. Il y en a qui sont un peu moins chères quand même. 100 000, non, ça c'est pas possible. Non, j'ai regardé sur Comparis en préparant la prédication, puis j'ai trié par hors croissant et j'ai regardé le prix de la première. Non, c'est pas 500 000, non, ça c'est déjà une jolie Ferrari. 178 900 francs. Et ce qui est intéressant, c'est que une Ferrari, en plus, il ne suffit pas d'avoir de l'argent pour l'acheter. Parce que Ferrari limite sa production à environ 7000 unités par année. Alors, ils ont un peu augmenté ces dernières années. Mais donc, s'ils ont déjà tout vendu, même si tu poses 1 million sur la table, tu ne peux pas acheter de Ferrari. Donc, pourquoi ? Simplement parce que comme ça, leur Ferrari va se vendre plus cher. Enfin, j'imagine, je ne suis pas dans leur business model. Et voilà, vous êtes l'heureux élu et vous êtes dans votre Ferrari. Chouette, hein, c'est une belle voiture. Et vous roulez dans votre Ferrari en Suisse à 120 km/h parce que de toute façon, c'est interdit d'aller plus vite. Donc, le gars qui a acheté son Opel Corsa toute pourrie et rouillée sur Anibis à 1000 francs, il arrive en même temps que vous à Genève. C'est pas de bol, hein, vous avez dépensé 200 000 francs pour votre Ferrari, puis votre voisin, 1000 francs, et il arrive en même temps que vous à Genève. Et les épreuves dans la vie, je crois que c'est un peu Dieu qui va enlever les limitations de vitesse et qui vous permet d'appuyer sur le champignon. Pour montrer que votre foi, elle a de la puissance, et puis que votre Ferrari, c'est pas la Passat de votre voisin, c'est pas la voiture toute pourrie de votre voisin. Votre Ferrari, c'est le dernier modèle, c'est un moteur puissant qui rugit. Et d'un coup, il enlève la limitation de vitesse, vous appuyez sur le champignon, ça fait vroom. Puis là, vous êtes à 300 km/h en espace de 10 secondes, et c'est juste incroyable. Et il veut montrer que oui, la foi chrétienne est plus précieuse, on roule plus vite que dans le petit véhicule bouddhiste, et même que dans le grand véhicule bouddhiste. Votre foi chrétienne a de la valeur, a de la puissance. Et s'il n'y a pas de difficulté, finalement, être chrétien, être bouddhiste, être taoïste, hindou, est-ce que vraiment on voit la différence? Bien sûr, il y a une différence, hein, je nie pas la différence même dans les périodes de paix, mais elles ne ressortent pas de manière aussi fulgurante. Imaginez Martin Luther qui arrive sur les portes de son université, boum, 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 il publie ses thèses, les gens, ils arrivent, ah, il y a un prof qui a mis un petit article sur la porte, puis ils continuent leur chemin. Pas un mot, rien. On n'aurait jamais vu, on n'aurait jamais su aujourd'hui que Luther a été un homme de foi incroyable. Et c'est comme ça avec beaucoup d'hommes de foi. Leur foi a été révélée dans l'épreuve. Vous voulez voir Dieu en action? Vous voulez voir la puissance du moteur de votre foi? La puissance de Jésus-Christ? N'ayez pas peur des épreuves, n'ayez pas peur des difficultés. Au contraire, réjouissez-vous. La difficulté arrive, vous allez voir la puissance de Dieu. Réjouissez-vous dans l'épreuve. Dieu va intervenir, certainement pas de la manière dont vous vous attendez. Certainement pas. C'est certainement pas d'une manière où vous auriez pu l'imaginer. Mais Dieu va agir puissamment. Il l'a promis. Il sera là, au cœur de l'épreuve. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, sa houlette et son bâton me rassurent. Il me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. À cause de son nom, c'est parce que vous avez mis votre foi en lui qui va agir. C'est là ce qui fait que votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristé pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée. L'épreuve authentifie la foi, montre que nous sommes de vrais chrétiens, ou bien au contraire que notre foi n'était pas vraiment authentique. Elle montre la valeur de notre foi, qu'elle est plus précieuse que l'or, et elle purifie la foi. L'or, pour être purifié, passe par différentes étapes. Souvent, en fait, quand on prospecte de l'or, on ne trouve pas des pépites. Ça arrive qu'on tombe sur des pépites, mais souvent, l'or va être mélangé à de la roche, à de la terre, et il va falloir séparer le tout. Et une des étapes, c'est on prend tout ce tas de choses et on le met dans un four très très chaud. Et l'or fond, et les impuretés vont aller au-dessus, ce qu'on appelle les scories. Et l'or qui est dessous est pur. Mais pour arriver à cette étape-là, eh bien, qui est, si j'ai bonne mémoire, la dernière étape de purification de l'or, ben, il faut chauffer. Il faut chauffer l'or. Il faut le mettre à l'épreuve pour qu'il fonde et pour que ce qui est impur puisse être éliminé. L'or est éprouvé. L'or que l'on convoite tant est soumis à l'épreuve. Et dans notre foi, on a souvent tendance à ajouter des choses qui ne devraient pas s'y trouver. Et c'est d'autant plus vrai quand tout va bien. Quand tout va bien, on a plus le temps de réfléchir, on a plus le temps de spéculer, et puis ben, on développe notre foi et on ajoute pas mal de choses. Imaginez aujourd'hui que celui qui se dit chrétien, il risque d'aller en prison. Que celui qui se dit chrétien risque d'être menacé de mort. Il risque de se faire crever les pneus de sa voiture, de perdre son travail. Que celui qui possède un livre chrétien risque une lourde amende. Ben, je suis convaincu que si ça arrivait, il y a une bonne partie de notre théologie qui disparaîtrait. Puis qu'on va garder seulement ce qui est vraiment intéressant, vraiment ce qui fait le fondement de notre foi. Et je pense que tout ce qui est théologie spéculative, théologie libérale, ben ça va vite. Ça ne va pas passer l'épreuve de la difficulté. Seul ce qui est précieux va résister à l'épreuve. Et il y a une page de l'histoire de l'Église que j'aime bien, qui se passe au 4e siècle. Je pense que je vous en ai déjà parlé une fois ou l'autre. C'est l'histoire d'Athanase et puis l'histoire de la confession de Nicée-Constantinople, du symbole de Nicée-Constantinople. Après la mort de Jésus, jusqu'en 313, les chrétiens ont été plus ou moins tolérés et plus ou moins persécutés dans l'Empire romain. Il y avait des phases plus ou moins tranquilles et puis des phases, mais vraiment de persécution sévère. Et puis, Constantin, en 313, donne la possibilité aux chrétiens de se réunir librement. Après deux siècles et demi de persécution, ils ont la paix. Et c'est l'occasion pour les chrétiens de prendre position sur certaines questions théologiques. D'ailleurs, même Constantin va les presser pour prendre position là-dessus. Et que se passe-t-il? C'est aussi le début des grandes hérésies. Bien sûr, il y a aussi eu des hérésies avant. Il y a aussi eu Marcion, il y a aussi eu les gnostiques. Enfin, il y a des choses qui se sont passées. Mais ce qui se passe au 4e siècle, c'est qu'il y a une hérésie qui va prendre le dessus dans l'Église. C'est l'arianisme, de Arius, celui qui a monté cette théorie, et qu'on retrouve encore aujourd'hui chez les témoins de Jéhovah, par exemple, c'est de dire Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et en fait, cette idée va se propager dans l'Église et va être la pensée dominante dans l'Église pendant, pas tout à fait un siècle, mais presque. Et ça arrive juste à la fin d'une période de persécution. Et probablement que s'il y avait eu de la persécution, ça aurait été un peu différent. Et il y a une personne qui va garder une foi en un Jésus-Christ, fils de Dieu, un Jésus-Christ qui est à la fois vrai Dieu et vrai homme, c'est Athanase, qui va vraiment le proclamer, le dire, qui va se battre pour ça, Athanase, évêque d'Alexandrie, et il sera persécuté tout au long de sa vie. Alors bon, il va pouvoir retrouver refuge chez les moines, il va avoir l'appui de trois autres théologiens. Mais ce que je trouve intéressant, c'est fin des persécutions, début d'une grande hérésie. Notre foi est éprouvée, est purifiée quand nous sommes dans les difficultés. Et je crois que dans nos vies, c'est là un peu la même chose. Quand on est dans la difficulté, on est obligé de mettre notre foi en action, d'une certaine manière. Soit on fait confiance à Jésus-Christ, soit on s'arrête. Mais quand tout va bien, on a le temps de faire plein de théories. Puis après, on fait plein de théories, puis il y a des difficultés qui surviennent. Puis on se dit, ça c'était bien, ça mène à aller de l'avant, et puis je vois que c'est vraiment ce que la parole de Dieu enseigne. Puis là, j'ai complètement plané. Alors réjouissons-nous quand la difficulté survient. Dieu veut purifier notre foi. Et cette foi qui passe par les épreuves a un résultat absolument génial. Alors quand Jésus-Christ paraîtra, vous recevrez honneur, louange et gloire à cause de la qualité de votre foi. C'est merveilleux. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristé pour un peu de temps par diverses épreuves. Ces difficultés servent à montrer la qualité de votre foi. L'or peut s'abîmer, pourtant on le met dans le feu pour voir s'il est pur. C'est pareil pour votre foi, elle est plus précieuse que l'or, mais elle aussi est mise à l'épreuve. Alors quand Jésus-Christ paraîtra, vous recevrez honneur, louange et gloire à cause de la qualité de votre foi. Jésus, vous ne l'avez pas vu et pourtant vous l'aimez. Vous ne le voyez pas maintenant et pourtant vous croyez en lui. C'est pourquoi vous êtes remplis d'une très grande joie, une joie si grande qu'on ne peut même pas en parler. Il y a deux choses qui sont dites sur cette foi. C'est d'une part, elle vient du fait qu'on aime Christ sans le voir. Ça, c'est étrange, ça. On aime Jésus-Christ et on ne le voit pas. Nos yeux ne le voient pas, mais spirituellement, on peut le voir, on peut le connaître. Par son esprit, Dieu veut nous donner de voir la puissance de Christ mort, ressuscité sur la croix. Et il veut nous donner une joie qui est de la même nature. Elle est inexplicable. On ne peut pas en parler. Je lis souvent la Bible, la tradition. Ça, c'est pas moi. Ça, c'est... J'ai cru que c'était mon ordinateur qui commençait à chanter. Dans la tradition Louis II utilise un mot que j'ai jamais vu ailleurs. Il dit qu'on a une joie ineffable. Je suis tombé sur ce mot, je ne l'avais jamais lu ailleurs que dans ce passage. Et c'est simplement le terme grec qu'il a utilisé, c'est dire on ne peut pas en parler. Et je crois que ça nous montre une joie qui est tellement différente de celle du monde. C'est-à-dire, quand on cause de la joie en général, tu t'es marié, tu as une nouvelle voiture, tu as une nouvelle maison, tu as un nouveau travail, tu as eu de bonnes vacances. Il y a toujours quelque chose un petit peu de matériel derrière la joie. Et là, Dieu veut nous remplir d'une joie qui est bien plus puissante, bien plus profonde que cela. La joie que Dieu nous donne est beaucoup plus grande que les épreuves que nous traversons. Une joie qui dépasse tout entendement, c'est une caractéristique de la vie chrétienne. Et je pense qu'on peut même aller plus loin. C'est un des fondements de la vie chrétienne. Et je crois que je pourrais m'arrêter ici, parce que j'ai dit tout ce que j'avais à dire ce matin, mais il manque quelque chose d'un petit peu essentiel. C'est que j'imagine, pour plusieurs d'entre vous, vous êtes dans la difficulté, et puis vous dites, mais ça je sais, et ça ne fonctionne pas. Comment je fais pour avoir cette joie? Comment est-ce que je fais quand je reste dans la difficulté pour rester rempli de cette joie? Alors j'aimerais donner une réponse un peu en deux temps. La première c'est, mais place-toi devant Dieu. Reconnais qui est Dieu et qui tu es. Un homme pécheur, un homme à qui Dieu pourrait faire plein de reproches face à un Dieu irréprochable, un Dieu saint. Et que ton seul moyen d'être en contact avec cette joie qui vient de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et en pensant à cette question, comment faire, je me suis dit, mais en fait, j'ai pas tellement de solutions à vous donner. Mais je connais quelqu'un qui a une excellente solution, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui veut que nous soyons remplis de cette joie. Quand on voit ce jeune homme qui est amoureux, on ne veut pas qu'il tire la gueule, on veut qu'il soit plein de joie, une joie communicative. C'est cette joie qu'on a envie, qui habite au fond de nos cœurs. Et je crois que Jésus veut nous donner son esprit pour que cette joie inexprimable, elle est vraiment inexprimable cette joie, habite au fond de nos cœurs. Et lui, il a la solution. Il a la solution dans tes épreuves. Il a la solution là où tu es en train de, dans ce que tu es en train de vivre. Et je propose en quelques instants qu'on puisse simplement fermer les yeux. Et je propose que ceux qui veulent recevoir cette joie puissent lever la main. Puis on va tout simplement prier et demander que cette joie vienne remplir vos cœurs. Moi, je n'ai pas tellement de solutions, mais Jésus, il veut vous révéler sa gloire. Je vous propose de fermer les yeux et puis on va prier. Ouais, Seigneur, nous avons besoin de cette joie. Tu vois ces mains qui se lèvent et qui disent, mais Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de cette joie, j'ai envie de vivre ma vie chrétienne dans la joie, une joie qui ne dépend pas des circonstances, une joie capable de traverser toutes les épreuves. Seigneur, j'ai envie que cette joie m'habite et soit contagieuse autour de moi. Quand on me voit, j'ai envie que je sois amoureux de toi, Seigneur, que ça se voit, que ça se transpire. Et Seigneur, je te prie maintenant d'envoyer ton Saint-Esprit sur nous. Descends, Saint-Esprit, viens remplir nos vies, viens remplir nos cœurs, révèle-nous la beauté, la puissance, la gloire qu'il y a à placer sa confiance en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nos péchés. Seigneur, montre-nous, ouvre nos yeux spirituels. Nos yeux ne peuvent pas te voir, mais tu veux te révéler à nous. Nous dépendons de toi entièrement, entièrement. Jésus, envoie ton esprit.